Bienvenue dans Osons l'intime, une chronique portée par Claire et Céline du collectif Féminin Naissance Royons Vercors, dans laquelle on ouvre de nouveaux horizons autour de sujets souvent tabous, relégués au couple, à la famille ou à nos réflexions individuelles. Des partages d'une dizaine de minutes de nos vécus de femmes cisgenres et d'accompagnantes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle chronique d'Osons l'intime, une chronique qui vous est proposée chaque semaine par des membres du collectif Féminin Naissance, Royons Vercors. Et aujourd'hui, derrière le micro, nous avons Stéphanie qui est présente pour nous proposer en fait une chronique qui va être en deux épisodes. Bonjour Stéphanie.
Bonjour Anouchka.
Et on va parler donc pour ces deux chroniques d'un sujet à la fois vaste et qu'on peut retrouver assez fréquemment, en tout cas dans mon entourage, c'est le cas, une chronique sur la pression parentale.
Et oui, alors je vais faire cette chronique d'abord à partir de mon expérience de maman et puis aussi mon expérience de professionnelle. Mais effectivement, je trouve aussi que c'est un sujet très présent dans nos vies. Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette chronique. On va parler de pression parentale et c'est un sujet très personnel, intime, mais aussi on va voir que c'est un sujet qui est politique et collectif. Alors, entre le désir de ne pas reproduire ce que nous avons vécu et celui d'inventer entre autre chose, souvent à l'opposé, nous pouvons nous sentir pris dans des courants opposés en tant que parents. Alors, pour souffler un peu dans cette pression parentale, je vous invite à une ressource du vivant, un esprit de reconnaissance qui, à travers les générations, peut voir à la fois les élans à être là pour l'autre, les rendez-vous honorés entre les parents, les enfants, tous les moments soutenants, mais aussi les rendez-vous manqués, les liens abîmés parfois. Alors je vous propose ensemble de respirer dans cette vision plus large qui dépasse notre simple vie avec notre enfant, nos enfants, en regardant nos parents, nos grands-parents, les parents des parents des parents, et en voyant tous ces élans qui se sont croisés à travers les générations. En reconnaissant ces mouvements finalement très humains, ces forces de connexion, déconnexion, ces forces de soutien, défaillance, ces forces de stabilité, imprévisibilité. Je vous propose de sentir comment ces forces ont traversé nos vies, celles des générations avant nous, celles des générations après nous. Un temps pour reconnaître ça. Et peut-être sentir que la vie a cherché son chemin dans tout ce paysage, que la vie a certainement trouvé son chemin, parfois au prix d'efforts énormes, et puis parfois plus facilement. Alors, fort de cette ressource de reconnaissance et de cette vision plus large, je vous propose de parler, de rentrer dans le vif du sujet, de cette révolution culturelle qui est pour moi, en partie derrière cette pression parentale. Et on va d'abord parler de l'enfant qui devient au centre. Au fil des dernières décennies, la place de l'enfant dans nos sociétés a profondément changé. La sociologue Irène Théry l'explique très bien. L'enfant n'est plus un héritier soumis, mais un sujet de droit reconnu dans ses besoins et dans son bien-être. Autrement dit, l'enfant n'est plus celui qui doit obéir et qu'on doit remplir de savoir et de bonne manière de se comporter. Il est devenu celui qu'il convient d'aider à s'épanouir en tant qu'individu, à être heureux selon ce qu'il est profondément. Et c'est devenu ça, réussir son éducation en 2025 pour un certain nombre de parents. Cette transformation est majeure. Elle vient à la fois des avancées scientifiques, notamment en psychologie du développement, en neurosciences affectives, mais elle vient aussi d'une évolution de valeurs dans notre société qui produit une révolution culturelle. Nous vivons depuis déjà longtemps une remise en question des rapports de pouvoir et de l'autorité, avec l'émergence de valeurs de bienveillance, d'empathie, de coopération, d'autonomie. Une remise en question de la normalisation, de la norme et du collectivisme avec l'installation de valeurs de l'individualité et de l'inclusion. L'enfant n'échappe pas à cela. Il est perçu comme un être unique, sensible, à écouter et à comprendre. Cela s'accompagne aussi d'une pression sociale qui s'est déplacée. C'est toujours Irène Théry qui nous dit « Plus on proclame l'autonomie des familles, plus les normes sociales pénètrent leur intimité. » Autrefois, en fait, c'était l'État ou l'Église qui nous disait en tant que parents comment éduquer nos enfants. Et aujourd'hui, c'est plus subtil. On parle de liberté, de choix, d'autonomie parentale, mais sous couvert de ça, dans les faits, cette liberté s'accompagne d'un contrôle invisible à travers les réseaux sociaux, les médias, les experts de la parentalité et souvent les parents eux-mêmes dans le village, en fait.
C'est pour ça qu'on constate aussi que c'est une tendance, c'est-à-dire qu'on peut se croire chacun chez soi libre de prendre nos propres décisions et finalement on constate qu'autour de nous, il y a beaucoup de personnes qui font des choses similaires parce qu'on est tous influencés finalement dans la société dans laquelle on vit.
Exactement, on est dans le même mouvement en fait, ouais, tout à fait. On intègre vraiment ces normes qui deviennent vraiment intériorisées et on devient notre propre normalisateur en fait, exactement. Alors, si on plonge un peu plus dans ces attentes, si on les détaille un peu plus sur ces parents 2.0, comme on dit, je vais parler d'un... On va dire, l'idée, c'est pas de mettre une étiquette sur les parents, mais de parler d'un phénomène qu'ils peuvent vivre. Et donc, ils peuvent se sentir un peu dans le phénomène du parent expert. Je vais vous expliquer ce que j'entends par là. On demande aux parents, finalement, d'être compétents, c'est-à-dire de faire le job de parents suffisamment bons, d'être suffisamment ajustés aux besoins de leur enfant, donc de les décrypter, d'y répondre avec un tempo adapté à l'âge et aux compétences de l'enfant. Pour cela, on leur demande d'être suffisamment disponibles, mentalement, émotionnellement, pour incarner ces valeurs de bienveillance, bientraitance, solidité dans la relation. Et on leur demande d'être suffisamment présents, comme un guide sécurisant, mais qui laisse se développer l'autonomie. On leur demande d'être conscients aussi, pour éclairer les zones d'ombre, les choses dont ils n'ont pas conscience et qui sont derrière les points de friction dans la relation à leur enfant. Quand tout cela n'est pas là, on leur demande parfois même de donner le change sans forcément avoir d'autres ressources que de respirer un bon coup, se relier à des concepts et aller crier dans les toilettes, par exemple. Ça paraît parfois disproportionné. Donc déjà à cette étape, on voit qu'on est passé d'une transmission par l'expérience à un apprentissage plus théorique de la parentalité pour pallier aux manquements parentaux ou aux difficultés éducatives, entre guillemets. Avant, si on avait de la chance, on avait dans la famille un père, une mère, une grand-mère ou autre qui était pour nous ce phare présent, aimant, impulsant un rythme tranquille, qui laissait la place d'exister, un espace pour être avec l'autre. Les professionnels ont décodé, décrypté, compris, analysé pour en tirer ce qui fonctionne ou pas dans ces expériences d'enfant. En formant le parent, non par le vécu, mais par la théorie de ce qu'ils ont déduit de toutes ces expériences. On est donc dans l'ère du parent expert. Eux-mêmes s'appellent souvent les parents conscients. C'est le parent informé, formé, qui comprend ce qui se joue, qui donne le change avec un maximum de bienveillance et de structure, mais qui est souvent tout autant émotionnellement épuisé et souvent seul. Un parent qui n'a pas ou trop peu dans son histoire vécu des expériences nourrissantes de sécurité avec un parent finalement ou quelqu'un qui prend soin de lui et qui donc s'appuie seulement sur des concepts. C'est parfois ce qui se passe quand on va chez le psy. On a bien compris ce qui ne va pas dans notre vie, on a fait le tour de la question, mais rien ne change vraiment. Car tout ne se joue pas dans la tête et dans les représentations. Ça, c'est mon point de vue très personnel. Hein. Alors, dans ces attentes sur les parents 2.0, on peut vivre aussi ce que j'appelle le parent pare-choc. Donc, dans ces fameuses attentes des parents, il y a aussi implicitement « ne transmets pas tes traumas ». Répare ton histoire pour ne pas abîmer ton enfant. En effet, maintenant, nous savons l'impact que peuvent avoir nos expériences de jeunes enfants sur notre bien-être adulte. Nous pensons donc pouvoir donner le meilleur aux enfants et ainsi faire le bonheur des adultes plus tard. Sur le papier, c'est presque arithmétique. Si on sait ce qui évite de traumatiser les enfants, faisons-le. Comme si c'était simple ou universellement à notre portée. Comme si nous devions avoir les moyens de le mettre en place. Alors, c'est de notre responsabilité de parents de dépasser nos difficultés, d'aller chercher les ressources. Mais est-ce si simple? Il me semble injuste de porter seule ses responsabilités. C'est, je pense, une responsabilité à porter ensemble avec solidarité. D'abord, entre générations. Pour ma part, ça m'aide de me connecter à notre ressource de la reconnaissance à travers les générations du début de chronique. De ce qui a été dur comme soutenant dans mon histoire et dans l'histoire des gens qui m'ont précédée. Ça m'aide de sortir des reproches et des renvois de balles intergénérationnels qui pourraient finalement être sans fin en remontant à l'origine du monde. Ça m'aide à sentir qu'on est finalement dans le même bateau. Ça m'aide concrètement que mes parents assument leurs manquements sans se dérober ou se justifier et qu'ils reconnaissent aussi avec compassion comme ça peut être dur pour moi parfois d'être parent, mais aussi comme ça peut être dur pour mes enfants d'être mes enfants. Puis c'est une responsabilité à porter ensemble au niveau social, il me semble, car il faut reconnaître que nous vivons dans une société qui tend à couper l'individu de ses besoins de base, où le stress, la perte de sens, la solitude, l'épuisement deviennent une forme de norme, avec les horaires de travail, de crèche, d'école, souvent incompatibles avec les besoins des enfants, la solitude familiale, la pression économique, les attentes de performance en absence de soutien social. Et que nous vivons dans une société très genrée au niveau de la parentalité, car ce sont souvent les mères qui portent encore majoritairement la charge éducative et du soin des enfants. Le partage des responsabilités donc a une grande marge de progression entre les hommes et les femmes et au niveau global dans la société. Le parent qui tente de répondre aux besoins de leurs enfants dans un contexte où ils portent seuls cette responsabilité, alors même que les générations d'avant et la société refusent leur part de responsabilité, c'est ce que j'appelle le parent pare-choc. C'est le parent qui fait tampon. C'est le parent qui prend tout sur lui, qui encaisse le fossé entre un environnement transgénérationnel, familial, social et les besoins de son enfant pour tenter de le préserver. Et le résultat, c'est souvent un parent encore plus cabossé. Alors pour conclure la chronique, aujourd'hui j'espère avoir mis en lumière la pression qui pèse sur les parents qui parfois se retrouvent à contre-courant au niveau familial, social, tout en étant au cœur de fantasmes de réussite de parentalité. J'espère que ça peut vous aider à prendre un peu de recul. Pour ceux qui ne sont pas parents, qui écoutent, peut-être oncles, grands-parents, acteurs sociaux, tout un chacun, mais aussi les pères qui sont en retrait, qui seraient en retrait. Et j'espère vous interroger sur le regard que vous portez sur les parents, en vous incitant à voir peut-être comment porter votre part de responsabilité aussi dans le bien-être des enfants. En rompant les engrenages de reproches, de jugements qui se renvoient la balle, et en trouvant de la place, de la reconnaissance, peut-être plus de soutien. Alors la semaine prochaine, nous continuerons d'explorer la pression parentale avec un décryptage de ce fantasme que peut devenir la parentalité positive et bienveillante. Et j'espère pour nous aider à être des parents plus libres, d'être authentiques, avec moins de pression, ce qui, j'en suis sûre, est une condition pour le bien-être de nos enfants.
Tout à fait. D'ailleurs, ce qui m'est venu en tête pendant ta chronique, Stéphanie, c'est cette image du quand on se trouve dans un avion et qu'on nous conseille toujours de d'abord prendre soin de nous avant de prendre soin d'éventuellement notre enfant qui est à côté, c'est-à-dire de mettre notre propre masque à oxygène pour ensuite pouvoir être là pour son enfant. Et ça m'a parlé dans ta chronique de dire, en fait, est-ce qu'on se trompe pas de sens quelque part, de d'abord répondre aux besoins aussi des parents pour pouvoir ensuite être là pour son enfant et répondre aux besoins de son enfant.
Ah ouais, moi, j'adhère totalement et je vois comme en même temps c'est très difficile et qu'il faut déconstruire peut-être des choses pour arriver à se l'autoriser, quoi.
Ouais. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup, donc, Stéphanie, pour cette chronique. Donc, en deux épisodes, je le rappelle, sur la pression parentale. C'était le premier épisode aujourd'hui où tu nous as parlé de plusieurs concepts, donc du parent expert ou du parent pare-choc. Vous pouvez réécouter donc cette chronique sur notre site internet pour tous les détails, donc sur radioroyant.fr. Et je rappelle, Stéphanie, que tu es accompagnante psychocorporelle et doula et que tu es également membre donc du collectif Féminin Naissance Royan Vercors. On te retrouve très bientôt. Au revoir, Stéphanie.
À bientôt.
Pour de prochaines chroniques Osons l'intime, n'hésitez pas à poser toutes vos questions à Claire et à Céline du collectif Féminin Naissance Royan Vercors à l'adresse mail suivante féminin-naissance@gmail.com.